Chapitre 22.
L'île de France. Nous avons fait comme l'épervier. Nous avons décrit des cercles concentriques qui vont se resserrant autour d'une proie dont nous nous rapprochons sans cesse. Nous planons aujourd'hui, dans notre course à vol d'oiseau, sur une région plus française encore que les autres, sur celle qui a donné son nom et sa langue au reste du pays, sur la France de la France, sur l'île de France. C'est la petite et la grande banlieue de Paris. Aux temps anciens où les communications étaient difficiles, la banlieue d'une ville avait pour rayon le trajet qu'un voyageur à pied ou en carriole pouvait, dans la même journée, faire aller et retour de chez lui jusqu'à la cité. Aujourd'hui, ce rayon pourrait être défini l'espace parcouru en une heure par un train express. Limite forcément imprécise, mais qui peut nous suffire. Dans ce territoire ainsi mesuré, et qui appartient tout entier au bassin géologique parisien, se rencontrent des choses qu'on trouve en général autour d'une grande capitale. Population dense, gros villages, châteaux opulents, maisons de plaisance en quantité, culture maraîchère et culture de luxe. Mais si l'on compare les environs de Paris aux solitudes désolées de la campagne romaine ou au sable monotone des landes berlinoises, on reconnaîtra qu'ils sont vraiment privilégiés. Ils sont à la fois variés et charmants. En faut-il des preuves ? Qu'on regarde tour à tour les quatre points cardinaux. Le nord est, par excellence, le côté industriel et commercial. Là s'ouvre la trouée par où passent les canaux et l'Oise, qui est la rivière maîtresse de cette partie. Là fument des villes d'usines, comme Saint-Denis et Saint-Ouen, qui ont des centaines de milliers d'habitants et qui sont comme des excroissances de la grande ville prochaine. Là flamboient des verreries et les faïenceries de Creil. Là rougeoient les forges de Montataire. Là se tissent les tapisseries de Beauvais. Mais, au-delà des forts qui font à Paris une ceinture de fer, au-delà de la plaine qui s'étend dans cette direction, une ligne de coteaux borde l'horizon et se prolonge en forêt. Montmorency, Comel, Villers-Cotterêts, Chantilly, Compiègne. Au bois se mêle une série d'étangs ou de lacs minuscules qui forment une chaîne presque ininterrompue. Ermenonville, où Rousseau eut son premier tombeau. Mortefontaine, les étangs de la Reine Blanche. Enghien, Pierrefonds, qui se pique d'avoir des eaux minérales. C'est comme un avant-goût de l'humide Picardie. Sur leurs bords ou au flanc des collines, châteaux, parcs royaux, résidences princières se sont installés. Les Condés, les d'Orléans, les Napoléons y ont laissé la trace de leur passage. Ça et là, de paisibles et aristocratiques écoles, à Saint-Denis, à Écouen, à Juilly, ont pris la place où se prélassaient moines et nonnes, grands seigneurs et grandes dames. De petites villes aimables, telles que Senlis, entre ces deux petites rivières, l'Aunette et la Nonette, entre des bois et des pâturages où s'engraissent de grands bœufs blancs et où gambadent des chevaux de sang, sommeillent au pied de leurs vieilles églises. À l'est, c'est la Marne qui domine, et quand on a dépassé Vincennes et son donjon, Montreuil aux pêches, Champigny la bataille, Bondy, dont la forêt mal famée n'est plus qu'un souvenir, Noisiel, la ville du chocolat, le plateau de l'Abri étale devant les regards ses vastes perspectives. La lune et le soleil s'y lèvent, énormes, au ras du sol. Sur des marnes, des argiles, des gypses, des meulières, une couche de limon drainée avec soin se couvre de blés et d'avoine, de luzernes et de trèfles odorants. Les grandes fermes rectangulaires, avec leurs tourelles qui sont des pigeonniers, avec leurs meules dorées qui en répètent la forme, ressemblent à des forteresses et abritent dans leur enceinte un monde grouillant de vaches, de moutons, de volailles. C'est un des greniers de Paris. Il en arrive sans cesse des wagons de froment, de paille, de légumes, de laitage, et suivant la saison, de fruits ou de muguets. Au marché de Meaux ou de Coulommiers, c'est par millions que se chiffre la vente des œufs et des fromages, qu'apportent souvent des fermières en robe de soie. Des rivières sujettes à des crues subites, grands et petits morins, Obtain, Hyères, Yvette, se creusent des vallées étroites et sinueuses, dont les flancs rapides sont tapissés de vergers qui dégringolent jusqu'à des prairies encadrées de saules, de peupliers et d'aulnes. Il faut les voir, ces riantes vallées, quand l'éternel miracle du printemps fait éclore une neige blanche et rose sur les branches nues des pêchers, des cerisiers, des pommiers en fleurs, ou bien dans la sérénité de ces jours bleus où septembre met une fine voilette de gaze au paysage, qui apparaît au travers à la fois agrandi et adouci, poétisé et transfiguré. On comprend alors le charme prenant, la grâce délicate de cette nature discrète. À l'endroit où la vallée rejoint le plateau, des villages s'étirent le long de quelques routes qui suit la corniche, auprès de quelques sources qui naît dans les mantes et les joncs. De vastes propriétés qui appartiennent le plus souvent à des grands seigneurs d'aujourd'hui, je veux dire à des hommes d'argent, comme les Rothschild, les Perrer, les Camondo, les Greful, reconstituent sur un nouveau modèle les manoirs, les parcs, les garennes de l'antique féodalité. Ferrières, le château devenu historique des Rothschild, est un de ces somptueux séjours qui est sorti de terre dans l'épaisseur des bois. Au sud, c'est la Seine qui se dirige lentement vers Paris, encore pure et limpide. Elle amène des trains de bois, des péniches chargées de vin, de pommes, de plâtre, de farine, de pavés. Les moulins de Corbeil, les chasselas de Thomery, les usines électriques de Champagne, les pépinières fleuries de Dourdan et de Fontenay-aux-Roses, les poteries de Montereau et de Choisy-le-Roi, témoigne de l'activité laborieuse des habitants. Mais la beauté est aussi une richesse. Fontainebleau le sait, comme Nice ou Interlaken. Et c'est l'étonnement de l'étranger de trouver, à quelques lieues de Paris, ce qu'on appelait, au XVIIIe siècle, une forêt affreusement belle, une forêt presque sans eau, et, partant, sans oiseaux, mais imposante et profonde, où sur le sable d'un ancien fond de mer, parmi les grès amoncelés et chaotiques, se déroulent, à perte de vue, des solitudes vertes et des gorges sauvages, où se respire l'âcre senteur des pins et des genévriers, où vaguent en liberté sangliers, cerfs et chevreuils, où des hêtres et des chênes, plusieurs fois centenaires, méritent qu'on les déclare intangibles, comme ont fait la Suisse et les États-Unis pour les arbres et les sites de leur parc national. Il n'est pas étonnant que les Valois aient bâti au milieu de cette forêt sévère un palais qui a vu défiler bien des souverains, bien des crimes, des trahisons et des désespoirs. Il n'est pas étonnant que George Sand et Musset y aient promené leurs amours romantiques. Il n'est pas étonnant que sur sa lisière, à Barbizon, à Marlotte, à Grès, se soient développées des écoles de peintres, dont les plus célèbres, Millet et Théodore Rousseau, semblent veiller sur elles, comme des génies protecteurs du haut du rocher où sont encastrés leurs médaillons. On remuerait à l'appel les souvenirs si l'on voulait énumérer les retraites ombreuses que cénobites et grands seigneurs, écrivains et artistes, ont cachées dans les replis de ce pays accidenté. Ici fut Port-Royal, la Thébaïde janséniste, qui succomba détruite par la haine des jésuites et de Louis XIV. Tout près, l'abbaye de Gif et celle de Vaucernay, où une colonie de peintres a remplacé les moines. Ailleurs, dans la forêt de Sénart, au doux village de Champs-Rosay, erre l'ombre souriante et douloureuse d'Alphonse Daudet. Près de Sceaux, la vallée aux loups parle d'Henri de la Touche et de Chateaubriand. À Dampierre, les Deluines ont un château auquel préside, en effigie, Louis XIII, le roi qui fit leur fortune. Dans un creux du terrain, près de Melun, à Vaux-le-Vicomte, Fouquet, à coups de millions, improvisa une splendide résidence qui pourrait bien avoir servi de modèle à Versailles. Voilà bien des splendeurs, mais on en rencontre davantage encore lorsqu'on descend à l'ouest de Paris, les méandres sans fin où s'attarde la Seine. Bien que la batellerie qui sillonne le fleuve, les usines de Puteaux, le marché au bétail de Poissy y travaillent à la satisfaction des besoins matériels, c'est le côté le plus luxueux, le plus brillant. Dès le bois de Boulogne commence la série des élégances. Si les châteaux de Marly et de Saint-Cloud ne sont plus que des ruines et des cendres, l'âge d'or de la monarchie et des jardins à la française revit à Versailles, comme le goût des jardins anglais et des robinsonnades à la Rousseau demeure incarné dans le petit Trianon. Saint-Germain regarde au loin, du haut de sa terrasse, comme Meudon transformé en observatoire. Un peu plus loin, Rambouillet, où les présidents de la République ont succédé au roi, et Dreux, où les d'Orléans ont un tombeau de famille assorti à leur tradition, car il est plus riche qu'artistique, et contient tout au fond les restes du très bourgeois personnage qui fut le second époux de la mère de Louis-Philippe. On sent traîner dans toute cette région un vague parfum de poudre à la maréchale. Des caprices ont fait surgir quelques jolis pieds-à-terre, comme Bagatelle ou Brimborion. Les favorites, une des institutions les plus vivaces de l'Ancien Régime, ont eu par ici des domaines et leurs maisons des champs. La belle Gabrielle possédait à Bièvre un rendez-vous de chasse. Annette fut un des paradis de Diane de Poitiers. Maintenon et Saint-Cyr, qui ne s'attendaient pas à devenir une école militaire, évoquent la coiffe austère de la vieille maîtresse du grand roi. Bellevue fait songer à la Pompadour, qui contribua du moins à créer dans le voisinage la manufacture de Sèvres. Louveciennes est inséparable de la du Barry. En vérité, au cours des temps nouveaux, Ville d'Avray avec Balzac, Corot, Gambetta, Médan avec Zola, Bougival et Marly avec Augier, Sardou, Maupassant, Auvert avec sa brigade de paysagistes, n'ont point effacé l'empreinte gravée par les siècles monarchiques. D'ailleurs, les hommes célèbres, nés dans ces environs de Paris, pâtissent d'une condition fâcheuse pour qui entre dans la carrière. Ils sont fils du pays le moins particulariste de France, d'une région qui a une ville immense pour centre et vrai chef-lieu. Par suite, ils n'ont pas chance d'être prônés, vantés par l'amour-propre local. Ils sont rarement soutenus à leur début, comme les grands hommes de province, par un patriotisme régional. On sait en général que Hoche est né à Versailles, la Bruyère près de Dourdan, le bon Amiot à Melun. Mais qui songe que sont originaires des mêmes parages Alexandre Dumas, Sarcey et Courteline, Carrière et Troyon, Chaput et Montalembert? Le fait est que l'aide et la faveur de leur petite patrie n'ont guère contribué à leur renommée. Ils sont comme des étoiles noyées dans le rayonnement intense du foyer de vie et de lumière trop près duquel ils ont eu le tort de naître, et dans lequel nous allons à notre tour nous plonger.